Mémoire d'un jeune homme rangé, quatrième partie. À la faveur d'une courte absence de Madame Voreau, un conciliabule eut lieu dans le jardin entre Daniel, Berthe et Louise Loison. « Pour moi, disait Louise, c'est la femme de chambre qui a dû faire des rapports. C'est une mauvaise pièce. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je m'en aperçois. Vous direz ce que vous voudrez, mais je suis certaine que l'autre jour, elle vous a vu vous embrasser dans le petit salon. Sûrement, dit Berthe. Maman se doute de quelque chose. Elle n'est plus la même avec moi.
Il n'y a qu'à voir, dit Daniel, les têtes effrayantes qu'elle me fait quand j'arrive après déjeuner.
Oh, pour ça, dit Berthe, vous n'avez vraiment pas besoin d'y faire attention et d'y attacher la moindre importance. Est-ce que c'est maman ou moi que vous venez voir? Est-ce que moi je vous fais des têtes?
Tu m'aimes?
Demanda Daniel à voix basse. Je vous aime, vous le savez bien.
Dites, je t'aime.
Je t'aime. Faites donc attention, dit Louise. Il y a une chose, poursuivit-elle, qui m'a paru très grave l'autre jour. C'est quand Daniel était dans la maison pour chercher un livre et que Berthe a voulu monter dans sa chambre pour chercher de la laine. Sa mère lui a dit si sèchement « Tu n'as pas besoin de laine maintenant, tu en as un gros peloton dans ta corbeille. »
« J'aime bien maman, dit Berthe, mais elle est mauvaise quelquefois. »
Un après-midi, c'était vers le commencement d'août, Daniel trouva ces dames dans la salle à manger vitrée, parce qu'il avait plu et que le jardin était humide. Madame Voreau, en voyant Daniel, fit sa tête, comme d'habitude. Puis elle dit, à peine le jeune homme était-il assis, « Berthe, tu t'habilleras, il faut que j'aille voir Madame Stibel. Tu viendras avec moi. »
« Oh, maman, dit Berthe, tu n'as vraiment pas besoin de moi pour aller voir Madame Stibel. Je suis si fatiguée. J'aime mieux ne pas sortir aujourd'hui. »
« Bien, ma fille, dit Madame Voreau. Nous attendrons ton bon plaisir. Nous irons voir Madame Stibel quand tu seras disposée à m'accompagner. »
Daniel se leva brusquement. « Mademoiselle, dit-il à Berthe, « vous m'excuserez de vous quitter. Il faut que je rentre pour travailler. »«
Pourquoi vous en allez-vous ? » dit vivement Berthe. « Ce n'est pas vous qui nous empêchez de sortir. »
« Je vous assure, répéta Daniel avec beaucoup de dignité, que je suis obligé de rentrer chez moi.
« Si Monsieur Daniel a des occupations, dit Madame Voreau, pourquoi le retiens-tu ? Tu es indiscrète. »
« Au revoir, madame, » dit Daniel en allant saluer Madame Voreau.
Madame Voreau répondit par un sourire aimable, qui semblait comme rapporté sur son visage froid. Puis elle baissa les yeux sur son ouvrage. Berthe, à qui Daniel tendit la main, ne la prit pas. Louise Loison sortit dans l'antichambre avec Daniel.
« Vous êtes fou de faire des scènes pareilles !»«
Ça ne peut pas durer. » répondit-il. « Je ne veux pas qu'on me fasse toujours des affronts. Je ne veux pas qu'on me tolère ici. Je veux qu'on me reçoive. Je vais dire à papa, dès ce soir, qu'il vienne, demain, voir Monsieur Voreau, pour lui demander la main de Berthe. Si on me la refuse, je verrai ce que j'aurai à faire. »«
Attendez !» dit Louise, intéressée. « Je vais vous conduire jusqu'à la porte du jardin. »
Ils s'arrêtèrent ensemble devant la grille. Un petit ruisseau de pluie courait le long du mur. Avec le bout de son parapluie, Daniel faisait des petits trous dans le sable entre les pierres, ce qui troublait l'eau d'amusants petits floconnements.
« Si j'ai hésité jusqu'ici, dit-il gravement à Louise, c'est que les parents de Berthe me paraissent plus riches que les miens.
Quelle fortune ont vos parents sans indiscrétion ?
Je ne l'ai jamais su. Dit Daniel. Ils ne m'en ont jamais parlé.
Un jour, j'avais à peu près 10 ans, papa est entré dans la chambre de maman. Je savais qu'il était resté tard au magasin pour terminer son inventaire. Il a dit à maman,
« C'est bien à peu près ce que je disais. »«
230 ? » a dit maman.
217, a dit papa. Maman a dit, je croyais que c'était davantage. Depuis ce temps, je n'ai plus rien su. Seulement, papa a dû faire de très bonnes années. On a déménagé, le magasin s'est agrandi, on a 2 voyageurs en plus. Mes parents auraient maintenant plus de 500 000 francs, ça ne m'étonnerait pas. Mais qu'est-ce que c'est que 500 000 francs auprès de la fortune de Monsieur Voreau? Combien a-t-il, Monsieur Voreau? Demanda Louise Loison. 3 millions, m'a-t-on dit. Papa dit beaucoup moins que ça, dit Louise. Papa m'a dit qu'il devait avoir de 1 200 000 francs, et que ce n'était pas une fortune très sûre. Il y a des jours où Monsieur Voreau a l'air ennuyé. En tout cas, je sais ce qu'il donne à sa fille. 15 000 francs de rente et le logement. Est-ce que c'est beaucoup ? Dit Daniel. Il me semble, dit Louise. J'ai 100 000 francs de dot, et tout le monde dit que c'est très joli. Or, 15 000 francs de rente, c'est certainement beaucoup plus. Mais vous n'avez pas besoin d'être gêné parce que Berthe est plus riche que vous. Elle sait bien que vous l'épouserez par amour.
Oh, ce n'est pas ça qui me gêne, dit Daniel. D'autant plus que je suis bien sûr qu'un jour je serai très riche et que je gagnerai beaucoup d'argent. Mais c'est pour ses parents. Est-ce qu'ils voudront de moi ?
Faites toujours faire la demande par votre père. C'est le seul moyen de le savoir.
Dites à Berthe, dit Daniel, qu'elle ne m'en veuille pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Dites-lui que je ne l'ai jamais tant aimé. Chapitre 18. Démarches officielles. Daniel, d'un pas joyeux, rentra au chalet Pilou. Il allait parler à sa mère de ses projets de mariage. Heureux et fier de ses graves résolutions, il se sentait si grand garçon qu'il n'avait plus le droit d'être timide. Il s'avança d'un pas ferme jusqu'auprès de sa mère.
« Maman !»«
Eh bien ?»«
Je vais te parler d'une chose très sérieuse. Sais-tu ce que je vais demander à papa tout à l'heure ?»«
Je vais lui demander d'aller dès demain prier Monsieur Voreau de m'accorder la main de sa fille. »
Madame Henri leva les yeux et le regarda.
C'est une grande faute, dit-elle enfin, de laisser les jeunes gens dans le désœuvrement. Sous prétexte d'examen de droit, tu ne vas pas au magasin, tu restes à la campagne, et au bout du compte, tu ne fais rien. N'essaie pas de me faire croire que tu travailles. Quand on entre dans ta chambre, on te trouve étendu sur ton lit. Il y a un livre sur ta table, oh, je sais bien, il était ouvert à la page 32 il y a 15 jours. Il est maintenant à la page 40. Voilà ce que tu appelles travailler.
Bien, dit Daniel, bien, je parlerai tout de même à papa tout à l'heure.
Ton père t'enverra promener avec tes bêtises. Un garçon de 20 ans qui veut se marier. Un beau monsieur, vraiment. Je te vois père de famille et élevant des petits garçons.
Si je t'ai parlé de ça, dit Daniel nerveusement, c'est que j'y ai mûrement réfléchi. Je ne suis plus un enfant.
Il monta dans sa chambre, le visage assombri d'énergie. Il entendit de son lit, où il s'était allongé pour réfléchir, le crachement sauvage du train de 6h30 qui entrait en gare et qui, peu après, repartit en haletant. Quelques minutes se passèrent et la sonnette de la grille tinta. C'était Monsieur Henri qui rentrait dîner. En ce moment, les parents de Daniel habitaient seuls la villa. L'oncle Émile était parti avec la tante Amélie pour une ville d'eau, magnifiquement située dans les montagnes et d'où il devait rapporter 2 fortes sensations. Celle d'avoir réussi à occuper, à l'aller et retour, un compartiment réservé, et celle encore d'avoir obtenu à l'hôtel des Bains des conditions de prix exceptionnelles. Après un assez long temps, employé par M. Henri à se débarbouiller et à revêtir le molleton des villégiatures, Daniel entendit la bonne qui frappait à la porte de sa chambre. Mais il répondit qu'il n'avait pas faim.
autant pour apitoyer ses parents que pour obéir à cette tradition rigoureuse qui veut que les jeunes hommes, contrariés dans leurs amours, en perdent le boire et le manger. Un peu avant 8 heures, la femme de chambre remonta. « Monsieur fait dire à Monsieur Daniel de descendre. » Il descendit, très énervé. Ses parents avaient fini de dîner. Mais il remarqua, non sans satisfaction, qu'on n'avait pas enlevé son couvert et qu'on lui avait gardé une aile de poulet et des légumes. Il feignit de ne pas voir ses préparatifs, vint embrasser son père, puis alla se poster devant la fenêtre et regarda, sans rien voir, au dehors. « Qu'est-ce que maman vient de me raconter ? Il paraît que tu es devenu fou. Tu veux te marier ?» Daniel, de plus en plus énervé, sentit un sanglot lui monter à la gorge et ne le retint pas. Il se mit à pleurer sourdement entre ses dents. Pendant qu'il se désolait, une voix intérieure l'approuvait, l'encourageait, et lui disait en substance « Pleure, mon vieux, pleure, ça fait bien, ça fait très bien !» Ne trouve pas qui veut des larmes sincères pour attester victorieusement l'importance de sa douleur. « Oh, oh, il paraît que c'est grave !» dit en effet Monsieur Henri. « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Moi, ça m'est égal. Si tu tiens à ce que j'aille voir Monsieur Voreau, j'irai le voir. Il me mettra à la porte pour lui faire une proposition pareille. Je ne risque jamais que ça. » Le muscle au sanglot s'étant arrêté, Daniel le ranima et poussa quelques sanglots supplémentaires, plus artificiels. « Eh bien, j'irai le voir demain. Assieds-toi là et mange ta soupe, imbécile. » Le potage qu'on venait d'apporter était fumant, ce qui permit à Daniel de ne pas mettre à l'avaler un empressement de mauvais goût. « Où veux-tu que j'aille le voir, ce monsieur Voreau ?» Daniel eut alors cette impression obscure que son père n'était pas fâché de tenter cette démarche sous le couvert des vœux inconsidérés de son jeune garçon. « Va le prévenir ce soir que j'irai le voir demain à son bureau. Demande-lui son heure. » Daniel, après les démonstrations fâcheuses de madame Voreau, ne serait peut-être pas facilement retourné chez Berthe le soir même. Mais du moment qu'il avait une commission, qu'il venait voir Monsieur Voreau, il n'était plus un intrus. Du plus loin qu'il aperçut la famille, qui prenait le frais sur le perron, il s'écria « C'est Monsieur Voreau que je viens voir ce soir !» Et il répéta encore, quand il fut arrivé près du groupe, « J'ai quelque chose à dire à Monsieur Voreau. » « Monsieur, mon père désirerait aller vous parler à votre bureau demain. Il m'a chargé de vous demander votre heure. »«
L'heure qui lui conviendra, » dit Monsieur Voreau, « de préférence après la bourse, à 4 heures, 4 heures et demie. »
Louise Loison, presque ostensiblement, tirait le bras de Daniel. Elle lui fit descendre le perron.
« Quoi de nouveau ?»«
Mon père fera la demande demain. » Les deux jeunes filles l'accompagnèrent jusqu'à la grille. La grande porte était fermée, on faisait un petit détour dans le feuillage pour arriver à la petite porte. L'endroit était excellent, protégé tout à fait contre les regards de l'ennemi. Daniel embrassa Berthe.
« Vous serez contente d'être ma femme ?»«
Oui, Daniel. »«
Et moi, je serai bien heureux d'être votre mari. »
Ce terme de mari avait encore pour lui beaucoup de prestige. Il évoquait à ses yeux une sorte de personnage barbu, de forte carrure et très écouté dans les réunions de famille. À 20 ans, il serait déjà ce personnage-là. Il en était heureux, comme d'un avancement rapide. Tout en rentrant chez lui, il essayait d'examiner sérieusement la situation. À l'idée que M. Voreau dirait « oui », il ressentait un enchantement, d'ailleurs assez vague, un mariage avec des fleurs, une nuit de noces, un voyage en Italie. D'autre part, l'idée que M. Voreau refuserait lui était presque aussi agréable.
C'était du nouveau encore, du mouvement, une occasion de rébellion. Il n'envisageait que ces deux hypothèses. Il n'imaginait pas que les résolutions de M. Voreau ne fussent pas arrêtées d'avance. Il fut très longtemps à supposer chez ses semblables une indécision semblable à la sienne. Il préférait les croire sûrs d'eux-mêmes, afin de s'épargner la peine de modifier leurs résolutions, car il n'aimait pas les discussions, les combats, les efforts. Il n'attendait de la vie que des aubaines et non des salaires. Son père lui dit, quand il revint, « Quel train est-ce que tu prendras demain ?»«
Comment ? » dit Daniel. « Est-ce que je vais avec toi ?»«
Alors, tu supposais que j'irais tout seul chez M. Voreau ?»«
Ah !» dit Daniel, très ennuyé, et qui espérait rester tranquillement chez lui à attendre le résultat.
Le lendemain, il quitta Bernainvilliers après déjeuner, et vint chercher son père rue Lafayette au magasin. Tous deux, ayant pris un fiacre, se dirigèrent vers le bureau de M. Voreau, rue de Rivoli. Bien qu'on fût au mois d'août, Daniel avait froid dans la voiture et serrait les dents. Le fiacre inexorable, après avoir laissé derrière lui toute la rue Drouot, avait entamé la rue Richelieu, qui diminuait à vue d'œil. Il s'arrêtait une seconde au croisement des rues, mais c'était pour repartir aussitôt. Daniel avait mal au cœur. Il eût changé son sort contre celui de n'importe lequel de ces gens qui passaient, et qui n'avaient probablement rien d'urgent ni de décisif à accomplir ce jour-là. Ils attendirent M. Voreau dans une salle boisée où il y avait des guichets et des employés indifférents. Puis, le banquier, reconduisant quelqu'un et parlant affaires, apparut sur le seuil de son cabinet. Mon Dieu, comme il paraissait loin de ce qu'on allait lui dire. Quand il entra dans un vaste cabinet, éclairé par deux fenêtres, Daniel n'avait qu'un parapluie et qu'un chapeau. Mais il sembla avoir la charge de trois chapeaux et de quatre parapluies quand il s'agit de tendre la main à M. Voreau. M. Henri, avec une assurance bien enviable, prit un fauteuil à côté du bureau. Il y avait à l'autre bout de la pièce une monstrueuse chaise de cuir qui, lorsque Daniel essaya de la déplacer, se cramponna de ses quatre pieds au sol et menaça d'entraîner le tapis. De guerre lasse, il s'assit tout au bord. De cet endroit, en prêtant l'oreille, il suivit la conversation de son père et de M. Voreau. « Eh bien, M. Henri, qu'y a-t-il pour votre service ?»«
M. Voreau, mon fils me charge pour vous d'une drôle de commission. Vous ne pouvez pas vous douter de ce que ça peut être. »
M. Voreau chercha un instant par politesse et dit « Non, non !» avec un aimable sourire. « Eh bien, Daniel, il ne te reste plus qu'à le dire. Parle, puisque c'est toi que ça regarde. »«
Il n'osera pas vous le dire, Monsieur Voreau. C'est moi qui vais être obligé de prendre la parole. Figurez-vous que Monsieur mon fils s'est mis dans la tête que je vienne vous demander la main de votre demoiselle. »
Monsieur Voreau, qui examinait le jeune homme, regarda un instant M. Henri, puis il tourna de nouveau les yeux vers Daniel. « Quel âge a-t-il donc, ce jeune homme ? 22, 23 ans ?»«
Pas même, » dit M. Henri.
« Et il songe déjà à se marier ?»«
Il n'y songeait pas, » dit M. Henri, « mais il faut croire que votre demoiselle lui a plu.
Des histoires de jeune homme, enfin. »
« Écoutez, » dit M. Voreau. Vous comprenez que je ne puis guère vous répondre sans en parler à ma femme. Elle pensera, comme moi, que votre fils est un peu jeune. En tout cas, s'il était question de quelque chose, ce ne pourrait pas être pour tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait, votre jeune homme ?
Demanda M. Voreau, comme s'il voyait Daniel pour la première fois.
Qu'est-ce que vous faites, jeune homme ?
Daniel voulut parler. Mais ses cordes vocales fonctionnaient difficilement dans les circonstances solennelles. M. Henri dut dire à sa place « Il fait son doctorat,
il entrera au barreau. Et s'il n'y réussit pas comme nous voulons, je l'intéresserai dans ma maison.
« Eh bien, » dit Monsieur Voreau, « nous reparlerons de tout cela. »
Ils se quittèrent avec des politesses excessives. Daniel, en sortant de là, était heureux d'être débarrassé de cette visite, mais un peu désappointé de n'avoir pas reçu une réponse ferme. Il avait prévu le refus, l'acceptation, mais l'hypothèse de l'ajournement lui avait échappé. Après le dîner, comme ils étaient tous trois dans le salon du chalet Pilou, cornette à profusion les miniatures de la propriétaire, on sonna à la grille. C'était Monsieur Voreau. On l'installa dans un fauteuil et on l'accabla d'offres de liqueur. Il dut alléguer un mal de gorge pour refuser le cigare médiocre que Monsieur Henri lui tendait d'un air engageant. On parla du train de 6 heures, toujours en retard, du plus court chemin pour aller de la maison Voreau au chalet Pilou, de Madame Pilou elle-même, dont Monsieur Voreau connaissait les excentricités. Monsieur Henri, Madame Henri et Daniel l'écoutaient parler avec un intérêt prodigieux. Enfin, d'un accord tacite, on laissa la conversation tomber. Monsieur Voreau dit gravement « J'ai parlé à ma femme. » Le silence se fit plus grand. « Eh bien, elle est de mon avis. Nous ne disons pas non, loin de là. Nous trouvons, et je crois que vous pensez de même, qu'il est un peu prématuré d'en causer. Monsieur Daniel est un brave garçon, un jeune homme instruit et intelligent. Mais ne croyez-vous pas qu'il convienne, en raison de son jeune âge, d'ajourner la conversation à 1 an, non pour s'assurer de la solidité de ses sentiments, que je ne mets pas en doute, mais surtout pour voir de quel côté il s'orientera dans la vie. Qu'en pensez-vous ?
« Je suis absolument de votre avis, » dit la sage Madame Henri.
D'ici là, je ne vois aucun inconvénient à ce que ces jeunes gens continuent à se voir. Je tiens à faire savoir à Monsieur Daniel qu'il sera toujours le bienvenu à la maison. » Le lendemain, vers 11 heures, Louise Loison passa au chalet Pilou. Daniel la mit au courant des incidents de la veille. Elle se déclara satisfaite. « Ils ont dit oui, c'est l'important. Attendre 1 an ? C'est de la bêtise. Vous vous marierez vers le nouvel an. Nous nous occuperons de choisir un jour. »
Chapitre 19. Fleurs et présents.
Louise Loison quitta Daniel en lui disant encore « Vos parents à tous deux ne vous laisseront pas fiancer pendant 1 an. Ce serait absurde. Vous allez venir voir Berthe après déjeuner ?»
« Je pense bien.
Est-ce que vous avez songé à lui apporter un bouquet ?
Apportez-lui un bouquet, ce sera très gentil. »
Daniel se mit à la recherche de sa mère pour lui demander de l'argent à lui. Depuis qu'il était à la campagne, il ne touchait qu'un louis par semaine sur les 2 louis de ses appointements de fils de famille. Madame Henri avait donc mis de côté près de 300 francs dans une petite boîte en acajou. C'était Daniel lui-même qui, pour faire le jeune homme économe, avait proposé cette combinaison. Il la regrettait d'ailleurs, car Madame Henri lui donnait aussi difficilement de cet argent à lui que si c'eût été de l'argent à elle. Elle était partie faire son marché avec la cuisinière. Daniel la trouva dans la grande rue, devant l'étal de la poissonnerie. Elle examinait d'un air dégoûté un petit brochet qu'elle se proposait d'acquérir pour le repas du soir.
« Maman, je voudrais que tu me remettes 20 francs sur l'argent que tu me dois. Et c'est pour acheter un bouquet à... C'est pour lui acheter un bouquet. »
« Tu es fou ! Il n'y a encore rien d'officiel entre toi et cette jeune fille. Est-ce que tu vas maintenant commencer à lui donner des bouquets ?»«
Maman, je t'assure que ça me fait plaisir de lui apporter un bouquet aujourd'hui. »
« Et d'ailleurs, » ajouta-t-il avec une politesse un peu froide, « sois assez gentille pour me remettre les 20 francs que je te demande, puisque cet argent est à moi. »«
À toi ! À toi ! Je vais te donner 10 francs. Si tu veux un bouquet, tu en trouveras de magnifiques à 10 francs chez le pépiniériste. Tu lui en demanderais un de 20 francs qu'il ne pourrait pas te le donner plus beau. Tiens, voilà 10 francs. Mais attends-moi, nous allons passer ensemble chez le pépiniériste, puisque c'est notre chemin. »
Quand elle eut négocié l'achat du petit brochet, Madame Henri laissa à la cuisinière le soin d'acheter toute seule un bouquet de persil qui complétait le ravitaillement, et ne pouvait pas, en raison de sa faible valeur marchande, être l'objet de prévarications trop graves.
« Je trouve, » dit-elle à Daniel, « que ton père et toi vous êtes aussi fous l'un que l'autre. Maintenant, je me demande quand tu vas finir ton doctorat. Tu ne faisais pas grand-chose. Avec ces idées de mariage que tu as maintenant dans la tête, tu ne travailleras plus du tout. Mais je te préviens que moi, je ne donnerai jamais mon consentement avant que tu aies une position. Donc, mon ami, tâche d'en chercher une si tu tiens à te marier. »
Sois tranquille, dit virilement Daniel. J'aurai une position avant 6 mois.
Son visage eut cette expression énergique qu'il avait toujours lorsqu'il s'agissait de prendre une résolution et qu'il n'était pas nécessaire qu'elle fût immédiate. Il se mit gravement à rêver à des positions superbes. Un riche Américain, encore inconnu, le prenait en amitié et le choisissait pour son homme de confiance, aux appointements de 80 000 francs par an. Il montrait alors dans la banque de soudaines capacités, si bien qu'au bout d'un an, il était associé avec son patron. Ses affaires allaient si bien, au moment où il arriva chez le pépiniériste, qu'il eut refusé l'offre sérieuse d'une place à 500 francs par mois. Et pourtant, c'eût été là une position fort convenable pour un jeune homme de son âge. Mais Daniel n'avait que faire des positions simplement suffisantes. Élevé à une école héroïque, il lui fallait des coups de maître pour ses coups d'essai. Toute idée d'apprentissage lui était odieuse. Après avoir longtemps souhaité d'être un enfant prodige, il voulait être un jeune homme phénomène. Il n'aimait entreprendre que ce qui semblait manifestement au-dessus de ses forces, afin que la victoire fût plus glorieuse, et peut-être aussi la défaite plus excusable. Quand il jouait aux cartes le soir, en famille, il perdait généralement, parce qu'il ne lui suffisait pas de gagner. Il voulait gagner avec des jeux magnifiques. Madame Henri, pour la première fois, parla du mariage de son fils. Ce fut pour faire espérer nombre de commandes prochaines aux pépiniéristes qu'elle décida, grâce à ses promesses, à leur laisser à 7 francs une gerbe de roses blanches. Daniel vint la prendre après déjeuner pour la porter avec lui chez Berthe Voreau. Il se dirigea vers la maison de sa bien-aimée, avec d'autant plus de hâte de lui remettre ses fleurs, si doucement symboliques, que les larges feuilles de papier blanc, lâchées par leurs épingles, commençaient à se déployer inconsidérément et à se froisser. Madame Voreau n'était pas sur le perron, mais elle allait descendre.
« Il faut que vous disiez quelque chose d'aimable à maman, » dit Berthe. « Elle a été très bonne hier soir. Elle m'a demandé si je vous aimais. Je me suis mise à pleurer et je lui ai dit que oui. Elle m'a dit alors une chose qui m'a fait bien plaisir. C'est qu'elle vous trouvait très gentil. »
Il fut décidé que Daniel serrerait très longuement la main de Voreau et qu'il lui dirait « Merci, madame. » Ce programme fut exécuté en conscience. Daniel broya dans un étau les doigts fins et les bagues de Madame Voreau, ce qui lui arracha un petit cri. Daniel fut si confus qu'il sentit qu'il s'excuserait maladroitement et ne s'excusa pas. Il fut très heureux pendant quelques jours. Le grade de fiancé a été assez longtemps glorifié par la chromolithographie, pour donner au moins une semaine de joie attendrie et vaniteuse au nouveau promu. Un après-midi, Louise prit Daniel à part et lui dit «
Berthe voudrait vous demander quelque chose, mais c'est une imbécile, elle n'ose pas. Je lui ai bien dit qu'elle n'avait pas besoin de se gêner avec vous. Elle voudrait que vous lui donniez tout de suite sa bague de fiançailles. Vous comprenez, c'est très agréable pour une jeune fille de montrer qu'elle est fiancée. Quand on va chez le pâtissier et qu'on se dégante pour prendre un gâteau, les demoiselles de magasin disent entre elles « Voilà une jeune fille qui est fiancée !» Parce que les jeunes filles qui ne sont pas fiancées ne portent généralement pas de bagues en brillant.
« Mais oui, dit Daniel, mais oui. Berthe est une méchante de ne m'avoir pas dit ça plus tôt. Ou plutôt, c'est moi qui ai tort de n'y avoir pas songé. Je croyais qu'on ne donnait la bague qu'après la fête des fiançailles.
« Oui, dit Louise, c'est l'usage. Mais Berthe est une enfant. Elle voudrait avoir sa bague tout de suite. »
Daniel, un peu gêné pour parler de la chose à ses parents, imagina de leur proposer une combinaison. Il abandonnerait ses 300 francs d'économie et s'engagerait à se contenter de 20 francs pendant encore 35 semaines pour arriver à un total de 1000 francs, nécessaire selon lui à l'achat d'une jolie bague. Mais son père était de bonne humeur et il ne rencontra pas les résistances qu'il craignait. Monsieur Henri refusa même noblement son concours.
« Ça n'est pas, ajouta-t-il, à 3 jours près. Maman va chercher une occasion, et quand elle aura trouvé quelque chose de joli, elle l'achètera. Qu'elle y mette le prix qu'il faudra. » Et il fit un geste large, comme pour ouvrir à la prodigalité de Madame Henri un crédit illimité. Le surlendemain, Madame Henri rapporta de Paris un écrin de velours bleu.
« J'ai fait une vraie folie, » dit-elle à Daniel. « Tu vas m'en dire des nouvelles. »
Elle ouvrit l'écrin. Daniel aperçut un brillant, assez petit. Il le considéra en silence.
« Elle est très belle, alors ? » demanda-t-il.
« Tu ne la vois donc pas ?»«
Oui, elle est belle, mais je trouve que le diamant n'est pas très gros. »
« C'est une bague de jeune fille, » dit Madame Henri. « Le diamant n'est pas un bouchon de carafe. Mais regarde-moi un peu cette eau et cet éclat. Tu la lui porteras demain après déjeuner. Le brillant est assez blanc pour que tu puisses le montrer le jour. »
Le lendemain, Daniel, en se rendant chez les Voreaux, ne marchait pas trop vite. Il présenta ses compliments, parla de diverses choses, puis il se décida à sortir l'écrin de sa poche et à le tendre à sa fiancée.
« Ah, j'espère !» dit-elle. « Elle est vraiment très jolie. Maman, regarde la jolie bague que Daniel m'a apportée. »«
Très jolie !» dit Madame Voreau après un instant d'examen. « Je trouvais que le diamant n'était pas gros, » dit Daniel, attendant que l'on se récria sur son éclat. Mais ce fut une autre qualité compensatrice que lui trouva Madame Voreau.
« Il est très bien taillé, » dit-elle.
Berthe mit la bague à son doigt. Ils allèrent faire un tour dans le jardin. Daniel ne parlait pas.
« Qu'est-ce que vous avez ? » demanda la jeune fille. « Je suis ennuyée à cause de la bague, » dit Daniel. « Vous ne la trouvez pas belle. »
« Qu'est-ce que vous racontez, là ? Je la trouve très belle et je suis enchantée. »«
Non, » dit Daniel, « non, vous n'êtes pas enchantée. Vous vous réjouissiez parce que vous pensiez que j'allais vous apporter une jolie bague et voilà que je vous en apporte une qui ne vous plaît pas du tout. »«
Je vous promets que je la trouve très belle. » »«
Jurez-le-moi. » »«
Je vous ferai tous les serments que vous voudrez. » »«
Mais vous ne les faites pas. » Et vous ne les feriez que pour me faire plaisir.
Sincèrement, ma petite Berthe aimée, dites-moi que vous vous attendiez à une plus jolie bague.
Celle-ci est exquise. Elle ne peut pas être plus jolie. Et d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Quand nous serons mariés, vous m'en donnerez de bien plus belles. Embrassez-moi.
Chapitre 20. Un ami véritable. Un des premiers jours de septembre, Daniel apprit par un tiers que son ami Julius était revenu d'Allemagne
où il était allé passer 3 mois chez un industriel de Francfort. Pendant ces 3 mois de séparation, les deux amis ne s'étaient point écrits. Ils ne correspondaient que pour les besoins de leur commerce intellectuel, qui n'avait pas marché très fort pendant le cours de l'été. Ils étaient liés l'un à l'autre beaucoup moins par des sentiments que par des intérêts moraux. Ils apportaient dans leur relation un égoïsme très franc. Si l'un d'eux était venu à mourir, l'autre aurait moins vivement souffert de cette grande perte que de la mort d'un parent ou d'une maîtresse. Peut-être parce qu'aucune convenance mondaine précise ne l'eût obligé à souffrir. Ils éprouvaient un grand bien-être à causer ensemble, une vive allégresse à se retrouver. Mais ils pouvaient rester séparés 6 mois sans désirer se revoir. Parfois, Daniel voulait raconter une histoire à Julius. Mais l'encrier n'était pas à sa portée. Il renonçait à écrire à son ami, alors qu'il n'aurait pu se dispenser de souhaiter la fête d'un oncle complètement indifférent. Cette amitié, qui ne comportait aucune obligation, avait un grand charme pour ces âmes paresseuses. Un attrait encore venait de ce que Julius était un jeune homme un peu sauvage, très franc, sans condescendance, et dont la conquête n'était jamais définitive. Daniel savait bien que Julius l'estimait, mais il sentait aussi qu'il ne l'estimait pas aveuglément. Un ami sympathique est celui qui vous exalte, mais l'ami le plus cher est celui que l'on surprend toujours. Après une séparation, chacun d'eux se réjouissait en pensant qu'il allait étonner l'autre par tout ce qu'il avait acquis en son absence. Mais l'autre mettait une grande résistance à se laisser étonner. Daniel avait télégraphié à son ami de se trouver à 2 heures à la terrasse d'un café du faubourg Montmartre. Il aperçut le maigre Julius à son poste devant un petit verre de cognac qu'il s'était dépêché de boire pour en être débarrassé. Il avait les jambes croisées, le coude appuyé sur le marbre de la table et sollicitait l'un après l'autre, du pouce et de l'index, les poils de sa faible moustache. Il portait ce jour-là une cravate horriblement neuve, un plastron de soie orangé qui faisait un effet étrange avec sa jaquette étroite et son pantalon fatigué. Selon son habitude, il parlait à un interlocuteur invisible avec une certaine animation. Daniel fut heureux de revoir cette bonne figure. Comme ils ne s'étaient pas vus depuis 3 mois, ils échangèrent, par exception, quelques formules de bienvenue. « Bonjour, » dit Julius, « tu vas bien ?»« Et toi ?» dit Daniel, « comment va-t-on chez toi ?»«
Tu t'en fous, » dit Julius.
Daniel s'assit et demanda « Tu connais la nouvelle ?»«
Tu vas te marier, » dit paisiblement Julius. « Quand est-ce que tu te maries ?»«
D'ici 3 mois. »
« Et à part ça, » dit Julius, « as-tu fait des femmes pendant les vacances ?»«
Non, » dit Daniel, « je ne pense pas à ça. » Il arrivait ce qu'il avait craint. Cette aventure capitale de sa vie ne faisait aucun effet sur Julius. Si bien qu'influencé lui-même par cette indifférence, il lui semblait que tous les graves événements de l'été avaient considérablement perdu de leur importance, autant pour les relever dans son propre esprit que pour produire une impression sur son ami, il se mit à faire l'article pour son bonheur.
Tu ne peux pas t'imaginer comme c'est chic, une jeune fille.
C'est quelque chose dont tu ne te doutes pas. Elle m'aime beaucoup. Et à propos, tout ce que tu m'avais raconté au sujet d'elle et d'André Bardot, c'est faux. C'est complètement faux.
Julius ne répondait pas. Daniel résolut alors de lui parler de la fortune de Berthe. Lui-même n'y avait jamais beaucoup songé. Mais devant ce Julius impassible, il fallait, pour arriver à produire un effet, faire flèche de tout bois. Il ajouta donc. Et ce qui n'est pas mal non plus, c'est que le père Voreau est riche.
Non, dit tranquillement Julius.
Comment, non?
Non, je sais qu'il n'est pas riche. Et non seulement il n'est pas riche, mais il est très embarrassé dans ses affaires.
Et veux-tu que je te dise, papa, qui est en relation avec les clients de Voreau, sait à quoi s'en tenir sur sa fortune. Il a même dit aujourd'hui, à déjeuner, qu'il fallait vraiment que ton père ne connaisse pas la situation de Voreau pour avoir donné son consentement à ce mariage.
Mais qu'est-ce qu'elle a de grave, cette situation ?
Elle est très embarrassée, dit Julius. Voreau est dans des affaires difficiles, et l'année dernière, on a dit qu'il allait suspendre ses paiements.
Et puis après, je m'en fiche, dit Daniel, dont le visage n'exprimait d'ailleurs pas une parfaite insouciance.
Tu ne t'en ficheras pas toujours, dit Julius. Si ton beau-père saute, ce sera sérieusement, et tu seras obligé de payer pour lui.
Tu es bête à la fin, dit Daniel. Tu parles de tout ça et tu ne connais rien aux affaires.
Avec ça que tu y connais grand-chose, dit Julius.
Daniel, très assombri, ne disait rien.
Tu ne me demandes pas, dit Julius, si j'ai fait des femmes pendant les vacances?
As-tu fait des femmes pendant les vacances?
Dit Daniel, docile et tristement.
Veux-tu avoir l'obligeance de ne pas faire une gueule comme ça?
Dit Julius, et de m'écouter avec plus d'intérêt. Tu n'es qu'un veau, et tu n'avais qu'à t'informer de ce que je viens de t'apprendre aujourd'hui.
Ça n'aurait pas changé mes projets, dit Daniel avec énergie. Berthe m'aime et je l'aime. Je l'épouserai malgré tout. Mais je suis embêté à cause de mes parents. On va leur dire, tôt ou tard, ce que tu m'as dit aujourd'hui. Alors ça fera des histoires terribles. Ah, je suis embêté. Je suis embêté.
Tu es surtout embêtant, dit Julius. Si j'avais su, je ne serais pas venu aujourd'hui. Je voulais aller à Saint-Ouen. Le coiffeur m'avait donné 2 tuyaux. C'est toi qui m'as fait manquer ça.
Je me demande, dit Daniel, si je ne ferais pas bien de parler à papa tout de suite, et de lui dire avec des ménagements, tout doucement, que les affaires de M. Voreau ne sont pas aussi bonnes qu'il croyait, afin qu'il ne reçoive pas un coup quand on lui racontera ce que tu m'as raconté.
Ce serait idiot, dit Julius. Il est très peu probable que quelqu'un ait l'idée d'aller lui raconter ça. Ça ne regarde pas les gens. Et puis on suppose qu'il a pris ses renseignements.
Oui, dit Daniel. Mais est-ce que ce n'est pas une responsabilité pour moi de savoir ça et de ne pas le lui dire?
Mais non, répondit arbitrairement Julius. D'abord, ce que je t'ai dit n'est peut-être pas exact. Il y a toujours des mauvais bruits qui courent sur les gens d'affaires. On disait des mauvaises choses sur Voreau il y a 1 an, mais peut-être qu'il s'est remis à flot depuis.
Bon, dit Daniel. Tu dis ça pour me rassurer, et parce que ça t'embête que je fasse une tête. Tant pis pour toi si je fais une tête. Il ne fallait pas me raconter ça. D'ailleurs, tu as bien fait, et je te remercie,
dit-il après un silence. Après un nouveau silence, il ajouta,
« Ah, je voudrais que papa apprenne la nouvelle tout de suite, afin que je sois débarrassé de ce souci-là. Je vais être embêté tant qu'il ne le saura pas. Je ne pourrai pas lui dire ça moi-même. Et puis, il me semble que ce ne serait pas bien à cause de Berthe. » Parce qu'après, s'il fait des difficultés et s'il empêche le mariage, ce serait ma faute à moi. Écoute, mon vieux, je te quitte.
Où vas-tu?
J'ai des courses à faire.
Quand est-ce qu'on se reverra?
Je t'écrirai.
Tu n'es qu'une brute, dit Julius en lui tendant une main molle,
de te faire du mauvais sang pour une chose qui n'est pas sûre et qui n'a en tout cas rien d'imminent.
Daniel s'en alla n'importe où. Il s'arrêtait de temps en temps devant des magasins vagues,
à des étalages de mercerie que personne ne regardait jamais. Si bien qu'une vieille dame en noir se détacha du fond sombre de sa boutique et vint à la porte, l'air étonné et soupçonneux. Il se dit qu'il ferait peut-être bien d'aller voir M. Voreau et d'avoir un entretien avec lui. Et tout en sachant parfaitement qu'il n'aurait jamais cette audace, il se dirigea néanmoins du côté du boulevard Haussmann. Il passa devant les bureaux de la banque Voreau et considéra ces 10 belles fenêtres, qui pouvaient être aussi bien les fenêtres d'un banquier solide que celles d'un spéculateur trop audacieux. Daniel se vit réduit à souhaiter un coup de fortune subit qui ferait de lui le sauveur de M. Voreau et rétablirait la situation. Peu rassuré là-dessus, car les données lui manquaient, même pour n'y édifier que des songes, il se dirigea vers le magasin de M. Henri, sans but précis, pour voir son père, et dans l'espérance d'une aide du hasard. En embrassant son père, il prit une mine des plus soucieuses, pour essayer vaguement de lui faire deviner quelque chose.
« Qu'est-ce que tu as ?»«
Rien, très mal à la tête. Je rentre à la campagne. » Il reprit le chemin de la gare du Nord. Ah, ce n'était plus le premier voyage vers Bernainvilliers, le voyage charmant et plein d'espérance, où il ne doutait que de son bonheur, où il regardait comme une belle chimère la possibilité d'être aimé de Berthe et d'être agréé par M. Voreau. Il avait pris précisément le train de 4 heures, et se souvint que Berthe lui avait dit la veille qu'elle serait à la gare à l'arrivée de ce train-là. Il l'aperçut à la barrière, très jolie dans sa robe claire, dans la robe claire qu'elle avait déjà le jour où il était venu pour la première fois. « Encore la même robe » pensa-t-il malgré lui. Il s'en voulut d'avoir pensé cela. La locomotive avait entraîné le train jusqu'à la pompe, assez loin de la sortie des voyageurs. Et, tout en revenant vers la barrière, Daniel se disait que ses remarques étaient absurdes, que M. Voreau dépensait assez d'argent et menait assez grand train pour payer à sa fille autant de robes qu'elle voulait, et que, d'ailleurs, Berthe en avait plusieurs autres, qu'il lui avait vues d'autres jours. Mais quand il fut près d'elle, il ne put s'empêcher de regarder cette robe et de s'apercevoir qu'au coude, l'étoffe était un peu fatiguée. Et il vit que le chapeau de paille, où s'enfonçait une grande épingle, était piqué, du côté où sortait l'épingle, de petits trous trop nombreux. Il s'en voulut encore d'avoir remarqué cela, et fut pris brusquement d'un grand élan d'amour et de pitié, comme si sa fiancée avait été très misérable. Il était à un âge où l'on aime mieux changer carrément d'idéal que d'avoir un idéal diminué. Il s'exagéra avec délices la détresse de cette jolie personne et serra tendrement le bras mince de Berthe contre le sien. C'était une nouvelle occasion de s'exalter. Il en profita. Il se vit sauvant héroïquement de la ruine celle à qui il avait donné son cœur. Chapitre 21. Conseil de famille. Quand la bonne eut posé le chocolat sur la table de nuit, elle alla à la fenêtre. Le matin, qui attendait derrière les volets, se rua par la brèche ouverte et remplit brutalement la chambre. Daniel, l'œil hagard, au sortir d'une nuit pleine de songes, cherchait ses idées de la veille. Il savait qu'il s'était couché avec un embêtement et ne le retrouvait plus. Il s'assit sur son séant, allongea et tordit ses bras, comme si les serpents de Laocoon se fussent enroulés autour de son corps, regarda avec effroi sa tasse de chocolat, bâilla à en mourir, puis retomba étendu sur le côté. Au bout d'un instant, il se souvint de son ennui. Les révélations de Julius lui revinrent à l'esprit. Monsieur Voreau, qu'il avait cru riche, était dans une position difficile. Ce matin-là, comme la veille, il se hâta de mettre les choses au pis
et s'imagina que son futur beau-père se trouvait à deux doigts de la ruine. Il aimait mieux se dire « Monsieur Voreau n'a pas le sou » et mettre tout de suite pied à terre dans la pauvreté, que de se balancer dans des régions plus élevées, dans la nacelle mouvante d'une fortune instable. Il était très paresseux. Il avait un besoin continuel de sécurité. Il se résignait d'avance aux pires éventualités pour s'épargner la fatigue de les craindre. La résignation n'était d'ailleurs pas la seule vertu chrétienne que lui avait valu son besoin de tranquillité. Il était conciliant par peur de la discussion et longanime par appréhension de la lutte. La situation de M. Voreau ne l'inquiétait pas, mais il était moins rassuré sur l'opinion qu'en aurait sa famille. Quand M. Henri allait-il être mis au courant? Or, il se trouva que ça ne tarda guère. L'oncle Émile et la tante Amélie revenaient ce jour-là de la station thermale où ils étaient allés passer un mois. À 3 heures, accompagnée de Daniel, Madame Henri alla chercher sa sœur à la gare. L'oncle et la tante étaient arrivés à 12h50 à la gare de l'Est, avaient déjeuné près de la gare du Nord, puis la tante était partie à 2 heures pour Bernainvilliers, l'oncle restant à Paris pour ses affaires jusqu'à l'heure du dîner. Tous ces détails, un peu secs par eux-mêmes, furent donnés par la faible Amélie avec une voix plaintive, comme si c'eût été le récit de la plus touchante aventure. Elle avait, depuis 20 ans, une mine effroyable. Elle souffrait, suivant une sorte de roulement, de crampes d'estomac, de névralgie, de bronchite et de courbatures. Ces accidents avaient fini par laisser tout le monde absolument froid. Elle avait épuisé depuis longtemps la somme de commisération à laquelle elle avait droit dans la famille. Quand, à dîner, elle se levait de table pour aller se trouver mal dans la chambre à côté, tous les convives prenaient un air apitoyé. Émile disait « Il vaut mieux la laisser » et ils continuaient leur repas. En revenant de la gare, elle racontait à sa sœur et à Daniel les derniers incidents du voyage, les subterfuges employés par Émile pour se procurer un compartiment réservé. Il s'était donné comme un ami intime de M. Colombel, administrateur de la compagnie. Elle souriait douloureusement, racontant ses farces, et appuyait 2 doigts sur sa tempe fragile. Elle dit ensuite les connaissances qu'elle avait faites là-bas. La femme d'un commandant et 2 jeunes orphelines, dont la plus jeune chantait d'une façon admirable. Émile avait joué à l'écarté presque tous les jours avec un juge. « J'aurais voulu que tu voies, » dit-elle à Daniel, « comme c'était un homme spirituel, un vrai savant. Tu aurais été dans ton élément. » Vers 7 heures, l'oncle Émile rentra dîner avec M. Henri. Il était plus que jamais vif et noir. Il représentait dans la famille le type du viveur, car il avait eu pour maîtresse, avant son mariage, des femmes connues. Notamment une forte blonde, actrice, disait-on, une élégante. Il revenait des eaux avec un binocle à verre fumé, un vêtement gris fripé et une canne de montagne, achetée 35 sous à un homme du pays, qui avait commencé par lui en demander 8 francs. Daniel remarqua que personne ne lui parlait de son mariage et que son père paraissait soucieux. Après le café, comme l'oncle Émile, avec des gestes sûrs que son neveu lui enviait toujours, procédait à la confection d'une cigarette, Daniel se leva et prit son chapeau. « Où vas-tu si pressé ? » dit l'oncle Émile. « Mais, dit Daniel, je vais là-bas. » Il y eut un silence. « Je trouve, dit Monsieur Henri, que tu as tort d'y aller si souvent. » « Et que tu t'engages trop. »« Comment ?» dit Daniel. « Mais je suis fiancé !» ajouta-t-il d'une voix faible. « J'ai donné une bague. » Monsieur Henri se tourna vers l'oncle Émile. Je crois qu'il vaut mieux lui dire tout ce que tu m'as raconté. C'est lui que ça intéresse le plus, en définitive. Du moment qu'il se juge assez grand pour se marier, il est assez raisonnable pour qu'on ne lui cache rien. Daniel regarda l'oncle Émile.
« Eh bien, dit l'oncle, eh bien, j'ai communiqué à ton père des renseignements sur le père de la jeune fille en question.
Oui, enfin, vous avez tous cru sa position plus brillante qu'elle n'est en réalité. Pour tout dire, il est lancé dans des affaires... difficiles. Et il n'a pas du tout, mais pas du tout, la fortune que son train de maison pourrait laisser supposer. »
Daniel se leva sans mot dire.
« Où vas-tu ? » dit Madame Henri. Il répondit d'une voix ferme. « Je vais chez Mademoiselle Voreau. » Il trouvait cette sortie très belle, mais il était un peu gêné à l'idée de quitter ses parents fâchés. Il chercha sa canne dans la chambre à côté, dont la porte était ouverte, et prolongea ses recherches pour que quelqu'un se décidât à dire quelque chose.
« je vois, » dit enfin Monsieur Henri. « Monsieur est un grand seigneur, il est au-dessus de ces questions-là. D'ailleurs, est-ce qu'il a besoin de discuter avec nous ? Nous nous mêlons de ce qui ne nous regarde pas. »
Daniel répondit d'une voix altérée. « Je ne discute pas, j'aime cette jeune fille. Ce n'est pas à cause de sa fortune que j'ai voulu l'épouser. »
« Il ne s'agit pas de sa fortune, » dit Monsieur Henri. « J'aimerais mieux 100 fois que ce soit une fille pauvre, qui aurait toujours été pauvre. Quoique vraiment, ce n'est pas tout à fait ça que j'avais rêvé pour toi. Mais ce n'est pas la même chose d'épouser une fille sans fortune que d'épouser la fille d'un homme comme Monsieur Voreau, qui peut se trouver ruiné d'un instant à l'autre, et qui peut te ruiner avec lui. Sans compter qu'elle a été élevée avec des goûts dispendieux, habituée au luxe et à la toilette. Même quand je croyais que Monsieur Voreau avait une grosse fortune, je t'avoue que cette éducation-là me déplaisait un peu. »
Daniel ne répondait toujours rien. Il alla gravement embrasser sa mère et se dirigea vers la porte.
« Je sais bien, » dit Monsieur Henri, « que ce que je dis ou rien, c'est la même chose. Tu es bien pris. Il savait ce qu'il faisait quand il t'attirait chez eux tout l'été. »
Cette imputation suffoqua Daniel et lui donna la dose d'irritation suffisante pour opérer une sortie énergique. Il était bien certain que son père se trompait et que les Voreau n'avaient eu aucune arrière-pensée en le laissant venir chez eux. L'attitude de Madame Voreau en était la preuve. D'ailleurs, l'hypothèse d'un tel complot, eût-elle été vraisemblable, était insoutenable pour son amour-propre. Il ne s'y arrêta pas. Cette parole de Monsieur Henri eut simplement pour effet de diminuer la confiance qu'il avait dans ses parents, qui s'étaient mis aussi manifestement dans l'erreur. Il prit, pour aller chez Monsieur Voreau, un petit chemin à travers champs. Il n'y passait jamais à la nuit tombée. Mais ce jour-là, une attaque nocturne lui aurait, pensait-il, fait plaisir. Il brandissait sa canne avec vigueur. Il n'y avait d'ailleurs pas d'exemple qu'une attaque nocturne se fût produite dans ce pays des plus tranquilles. Il entra chez les Voreau, qui prenait le café dans la salle à manger vitrée. Il poussa la porte avec assurance, ne tremblant plus, comme jadis, à l'idée d'être un intrus. Il serra fortement les mains de Madame Voreau avec la rudesse et la supériorité d'un bienfaiteur. Louise Loison, Berthe et lui firent un petit tour dans le jardin. Parfois, le souvenir de ses parents, qu'il avait quittés si brusquement, lui revenait à l'esprit. Alors il prenait Berthe dans ses bras et l'étreignait ardemment. Fallait-il qu'il l'aimât assez pour se brouiller ainsi avec sa famille? Il se demandait avec angoisse s'il l'aimait véritablement. Il l'embrassait plus ardemment encore, et il se disait que, même s'il ne l'eût pas autant aimé, il lui eût été impossible, de par des lois inéluctables de délicatesse, de rompre avec Berthe pour une question d'argent. Chapitre 22. C'était vraiment très grave d'avoir osé tenir tête à ses parents. En rentrant au chalet Pilou vers 11 heures du soir, Daniel pensait trouver tout le monde encore sur pied, en désarroi, et attendant l'enfant prodigue pour une explication plus complète. Il ralentit le pas, malgré lui, quand, du tournant de la route, il aperçut le deuxième bec de gaz qui marquait dans la nuit la place du chalet Pilou. Mais en arrivant devant la grille, il vit que la maison était sombre. Ainsi, ils s'étaient tous couchés. Aucune lumière ne survivait aux fenêtres, qui révélât une veille anxieuse. Il se demanda un instant si sa rébellion avait toute l'importance qu'il l'avait supposée. Il n'était pas exactement fixé sur la gravité de ses actes. Qu'est-ce qui est une faute? Qu'est-ce qui n'est qu'une simple incartade, que les parents répriment pour la forme, tout en souriant entre eux et en se disant « c'est de son âge ». Il se rappela une petite intrigue qu'il avait eue avec une bonne à l'âge de 15 ans. C'était une petite brune, frisée sur le front, et qui avait dû aller assez longtemps à l'école, car elle écrivait les dépenses sans faute d'orthographe et d'une écriture penchée. Un soir, sans qu'on pût savoir comment ça lui avait pris, elle avait embrassé Daniel sur la joue, rapidement, et s'était sauvée. Le jeune garçon, un peu étonné, lui avait rendu ce baiser 8 jours après. Et depuis, il l'avait embrassé sur la joue, dans le cou, de temps en temps. Cette aventure, pendant les 6 mois qu'elle dura, l'avait beaucoup tourmenté. Dès qu'on parlait de la bonne à table, pour les détails de service les plus insignifiants, Daniel devenait tout rouge, et le nez dans son assiette ressemblait subitement à un myope qui mange dans un restaurant douteux. Et voilà que 2 mois après le départ de la bonne, l'oncle Émile avait dit, en examinant la remplaçante, « Tu aimais mieux la petite brunette, n'est-ce pas, Daniel ?» Daniel en avait ressenti un coup au cœur. Puis il s'était aperçu que son oncle n'avait dit cela que pour rire un peu. Il avait alors amèrement regretté de n'être pas allé plus avant dans ses affaires avec la petite bonne, puisque autour de lui, on parlait de la chose avec une tolérance aussi légère. Mais ses précédents ne le rassuraient jamais, car chaque aventure nouvelle lui paraissait excéder les bornes de l'indulgence paternelle. Et cette fois-ci, cette opposition déterminée aux volontés de ses parents était d'une gravité vraiment exceptionnelle.